La première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire ?
Alors, tu vas me demander ce que c'est la zouance, hein ? Ah ben, la zouance, c'est une calambre d'Aisne. C'est une raillerie, c'est une rosserie, c'est un humour typiquement belge, à mon avis.
À Namur, au musée Félicien Rops, jusqu'au 17 février, la zouance burlesque et canular, de Louis Guémard à James Ensor.
Voilà, nous sommes réunis ce matin pour découvrir cette exposition sur la zouance. Alors, évidemment, cette expo n'aurait pas eu lieu sans les idées toujours fourmillantes de Ronnie et Jessie Van de Velde, à qui on doit le concept de cette exposition, hein, qui nous ont vraiment poussé à organiser cette expo qu'on a menée avec beaucoup, beaucoup de plaisir, qui sont prêteurs dans cette exposition, Ronnie et Jessie, qui sont aussi graphistes, imprimeurs, maquettistes. Donc voilà, ils ont réalisé aussi le très beau catalogue qui est donc en vente ici à l'exposition. Et on remercie d'ailleurs les traducteurs et l'éditeur qui sont présents parmi nous.
À Namur, au musée Félicien Rops, jusqu'au 17 février, la zouance burlesque et canular, de Louis Guémard à James Ensor, avec Eliane Van den Heide, Véronique Carpio et Patrick Florizone, ainsi que les voix de Anne Larue, Xavier Tricot, Janine Van den Broek, enregistrées à l'occasion de la rétrospective James Ensor au Musée Royal des Beaux-Arts de Bruxelles et à Ostende en 1999.
Sur la gravure, une sorte de masque de morbide surmonté de la coiffe papale en train de verser des larmes qui peuvent être des larmes de sang. C'est quelque chose à la fois dérisoire et de puissant que cette gravure qui ne va pas, là encore, sans un certain anticléricalisme marqué, hein, avec ce crâne qui pleure. Et l'anticléricalisme est encore plus marqué par le croquis marginal qui représente une scène sexuelle, les jambes, on voit une femme aux jambes largement écartées et un homme dont le visage plonge dans son sexe, par-dessus un fauteuil. Donc cette femme qui semble éclater, presque éclater comme une grenade ou comme un fruit mûr par la violence du geste masculin, le tout étant à la limite de... Enfin, l'homme est encore en costume de ville, enfin ça a quelque chose d'infiniment prosaïque. Ça contraste avec le climat presque allégorique de la représentation du dernier pape, la tête dans un ciboire en train de pleurer, la tête de mort en train de pleurer. Enfin, on a une sorte de grincement qui joue à la fois de la gravure elle-même et du croquis marginal.
Comment vous êtes-vous intéressée et devenue une spécialiste de cette question ?
C'est parce que Ronnie Van de Velde m'a demandé de travailler sur la zouance. Et moi, je trouvais déjà que la zouance, c'est pas bruxellois.
Eliane Van den Heide.
C'est belge. C'est une belgité. Parce qu'à Anvers, on dit « zouance na nie », faut pas zonzer. Mais j'ai retrouvé des traces importantes de la zouance à Mons, par exemple, et à Liège. Et donc, j'ai fouillé, j'ai creusé, et je trouve que la zouance, c'est pas un humour gras, parfois qui est très très raffiné, qui est très réfléchi, parfois aussi très instantané, l'esprit d'à propos, mais c'est pas au premier degré. C'est un non, peut-être. Ouais, oui, sans doute.
Attendez, monsieur, attendez, je vais vous montrer. Regardez bien le renard. Allez, allez, voici, hein, mon garçon. Suivez, monsieur. Et que... Ah! C'était un bon patron.
Alors, l'exposition n'aurait pas pu avoir lieu non plus sans Wilfried Van de Velde, qui a ouvert les portes de sa maison au musée Rops. Et nous avons passé de nombreux après-midi là-bas à sélectionner beaucoup d'œuvres, beaucoup de photographies, de lithographies qui viennent de chez lui. Donc on peut vraiment aussi le remercier.
Ouais, quand même, un des cocombes. C'était un mauvais chasseur. Je vais porter sa tête au roi. Réclamer mes 20 balles.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Petite place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
C'est
une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Aleschinski.
Authentique, me tentop, me tentententum, stélé.
Le monde invisible. Alors, étymologiquement, la zouance, c'est la traîne d'une robe d'une femme. Donc ce qui balance, ce qui chavire, ce qui virevolte. Mais à Anvers, ça veut dire aussi une flaque d'eau ou de café insipide qu'on a renversé. Peut-être un ivrogne qui a renversé, qui virevolte, qui chavire aussi un petit peu. Il y a une autre, une troisième signification du mot zouance qu'on retrouve toujours en allemand, c'est der Schwanz. Alors, c'est la petite queue du cochon, par derrière ou par devant.
Et puis, nous avons évidemment Guillaume Bayle, que vous avez découvert dans la première salle du musée, avec ce musée zouanzé, puisqu'il s'agit d'objets qui auraient appartenu à des amis de Félicien Rops.
Le calvaire 1882, c'est ce que vous voyez, Anne Larue.
Oui, une héliogravure retouchée au vernis mou, avec un texte. Alors effectivement, qui représente un calvaire, si l'on veut, un calvaire christique, mais pas tant que ça, puisqu'il s'agit d'une femme nue, et la croix contre laquelle elle est en train d'être attachée par un personnage derrière, qui semble prendre grand plaisir à rouler autour d'elle divers liens. Cette croix ressemble plus à une croix de Saint-André qu'on voit dans les boîtes de nuit spécialisées qu'à une croix véritablement religieuse. Donc on voit là vraiment une forme de l'esprit subversif, je crois, de Félicien Rops. On peut ajouter que le Christ derrière est présenté en train de bander, quoi, il n'y a pas d'autre mot.
En priape.
En priape, voilà, oui, en itiphalique. Et c'est lui qui est au calvaire. Alors il y a un double jeu, le Christ en calvaire est dans cet état déployé, et devant la femme qui subit une sorte de calvaire parallèle, attachée à sa propre croix, typiquement sadomasochiste, en vérité.
Dans cette exposition, les hommes sont très présents.
Ah oui, il n'y a pas de femmes. On dit que les femmes n'ont pas d'humour. C'est vrai ? Moi, je ne le sais pas. Mais il faut dire, c'est un monde du 19e siècle qui est très très masculin. Bien qu'il y avait quand même une femme reine en Angleterre, qu'on dit très puribonde. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Donc ce 19e siècle, c'est un monde très très bourgeois. Donc très corseté. Mais en vérité corseté avec les crinolines, mais aussi mentalement corseté. Et qu'est-ce que c'est la zouance ? C'est un échappatoire contre ce monde qui est très corseté. C'est un échappatoire par l'humour. Et de là que la zouance, c'est une fronde, c'est une révolte. C'est quelque chose, oui, de contestataire souvent, parce qu'il y a souvent des commentaires sur la société, sur ce monde qui est très, oui, bouche cousue.
Wilfried, wil je dat niet doen alsjeblieft? Ik ga heel verward zijn, dus alsjeblieft. Nee, ja, nee, dat stoort mij heel erg, dus sorry.
Donc, bienvenue à un survol d'un quart d'heure de la vie de Guémard, qui était une vie bien remplie, qui était mondialement connue à Bruxelles, à son époque. Puis maintenant, sic transit gloria mundi. Comme il dit lui-même, hein, finis opera coronat.
La fin couronne l'œuvre. Louis Guémard était très connu mondialement à Bruxelles et aux alentours parce que c'était le photographe officiel du roi, mais pas uniquement du roi de la Belgique, mais aussi de tout le Gotha européen, la reine d'Angleterre. D'ailleurs, la collection, la Royal Collection en Angleterre, a encore beaucoup de clichés de Louis Guémard, mais aussi bien de ses majestés du Danemark, du Portugal, de tous les politiciens, de tous les artistes, de tous les Beken de Vlamingen de l'époque. Il a commencé sa carrière en tant que lithographe. Il n'a probablement jamais abandonné la peinture. Il a travaillé pour le Charivari belge. Il a fait des caricatures, mais aussi des caricatures de lui-même, des artistes et de tout son réseau, parce qu'il avait un très très grand réseau.
Eliane van den Heide.
Louis Guémard était aussi connu pour être un grand fêtard. Chaque fois qu'il pendait la crémaillère, il faisait une fête.
Pourtant, les mouvements anarchistes sont bel et bien là.
Oh oui, mais à la fin du 19e siècle. Parce que le mot Zwans n'apparaît que vers 1880-1885. Et là aussi, le mouvement anarchiste apparaît. Donc, oui, il y a comme un parallèle. Mais la Zwans, en tant que telle, en tant que forme d'humour contestataire, existe, à mon avis, depuis la naissance de la Belgique, un peu avant 1830. Il y a des premiers mouvements anarchistes, qui ne s'appellent pas encore anarchistes, comme les agathopèdes, comme la Société des Joyeux, comme il y en avait tant d'autres sociétés badines à Bruxelles, oui, qui cherchaient d'être dans la société, et en même temps, dehors.
À Namur, au musée Félicien Rops, jusqu'au 17 février, La Zouance burlesque et canular, de Louis Guémard à James Ensor.
Alors, cette conférence de presse va mettre aussi en évidence les recherches qui ont été menées par Eliane van den Heide, qui est avec nous et qui va vous présenter le musée fantaisiste de Louis Guémard dans quelques minutes.
Quand il ouvre son second atelier, boulevard de Charleroi, qui était alors ma campagne à Bruxelles, il fait une grande fête qui, d'après les journaux, dure 2 semaines. Quand il fait une association avec son demi-frère, il fait l'inauguration de la colonne vertébrale du procès. C'est 1 semaine après l'inauguration de la vraie colonne du Congrès et de la Constitution. Je crois que c'est très important, ça, parce que Louis Guémard se situe dans un milieu bruxellois, surtout politiquement libéral et franc-maçon. Et donc, il y a toujours des petits renseignements, des petits indices qui reportent à ce milieu. Mais en tant que grand fêtard, en 1868, un riche propriétaire terrien, Alphonse Collignon, de Rochefort, lui demande de faire une fête à l'occasion de la découverte d'une 3e grotte souterraine. Et là, Rochefort étant, comme on est à Namur, il y a une concurrence touristique. Et c'est le premier tourisme qui commence à s'élaborer. Et donc, cette fête, organisée par Louis Guémard, sera faite pour faire de la promotion touristique de Rochefort. Et donc, Louis Guémard, et on a là, on est très content d'avoir le programme de ces fêtes de Rochefort.
Vous, qui êtes conservatrice du musée Rops où nous parlons, Véronique Carpio, quand on entre dans le musée, on a comme une hallucination, on aurait pu penser à Chambre d'amis, hein, à l'installation de Jacques Charlier à Gand.
Alors, oui, c'est vrai que dans le cadre de cette exposition, on a voulu créer aussi quelque chose d'un peu cocasse, qui, un peu à l'image de ce que faisait Louis Guémard, pouvait provoquer un certain étonnement ou en tout cas une confusion. Et nous avons fait appel à Guillaume Bayle, qui est cet artiste anversois qui travaille déjà depuis une quarantaine d'années sur des installations in situ, des espèces de sculptures en trois dimensions d'installations. Il refait des faux salons de coiffure, des faux bureaux de voyage dans des espaces muséaux. Donc il amène quelque chose de tout à fait différent dans un espace où on ne s'attend pas à trouver une agence de voyage ou un supermarché. Et ici, au Musée Rops, il a investi la toute première salle qui est normalement consacrée à l'accueil du visiteur, à la présentation des ouvrages. Et il en a fait un petit musée, une petite salle de musée consacrée à des objets d'amis de Félicien Rops, qui auraient appartenu donc à Félicien Rops. Et on y trouve différentes choses de Charles Baudelaire, d'Auguste Rodin, de la femme de Rops, Charlotte Paulet de Favot, des sœurs Duluc, qui étaient les maîtresses de Félicien Rops, Aurélie et Léontine Duluc. Il y a aussi Édouard Manet qui est présent, Charles de Coster. Donc tous les grands noms qui ont croisé la vie de Rops, l'existence de Rops, sa carrière, certains d'entre eux sont ici représentés dans ce petit musée. Et Guillaume Bayle est aussi mis à l'honneur puisque en 2010, il a réalisé un film sur James Ensor en 1920.
Klötzelopoulos.
La fête de Rochefort, c'est vraiment une très très grande fête, avec des saltimbanques, avec des marionnettes, avec un cirque, avec des fanfares, avec une course de femmes costumées, c'est ce qu'on va faire par après, avec des cortèges et surtout un invité d'honneur qui à cette époque doit être un invité de marque. Alors, Guémard a réussi d'inviter le jeune frère du prince ou de l'empereur du Japon. Et donc le cortège impérial descend en train vers Gemel et de là des carrosses qui traversent des arcs de triomphe et des spectateurs le long de la route qui applaudissent et qui regardent ce jeune japonais. Oh là! Et puis c'est la fête à Rochefort avec un feu d'artifice. Et avec, bien sûr, le verre de l'amitié et un repas. Sauf que il y en a un de cette suite princière qui a fait trop d'honneur au vin de l'amitié de Monsieur Collignon et qui dit par après, qui fait un cumulet et patatras. Sa perruque tombe par terre. Mais c'est un du club nautique de Bruxelles, tiens. Donc le jeune prince japonais, il s'appelait à Bruxelles simplement De Witt. Et donc c'était une des farces de Guémard. Donc ils ont pris leurs jambes à leur cou, ils sont enfuis avec le premier train à grande vapeur à nouveau vers Bruxelles. Et c'est Guémard qui a payé les frais de toute cette fête. Mais avec ces fêtes de Rochefort, Guémard fait une première, c'est-à-dire une exposition de beaux-arts. Et on a un de ces tableaux de ce musée de beaux-arts, un pastiche d'un vrai tableau de Louis Gallet. Ceci, c'est le petit modello que Gallet a fait en 1864. C'est la lecture de la sentence de mort pour le comte d'Egmont. 1868, les fêtes de Rochefort, ce n'est pas par hasard que Guémard reprend ce tableau, parce que c'est exactement 300 ans après la lecture et la conviction de la sentence de mort du comte d'Egmont, qui était quand même un des grands nobles de la Belgique. Et pour ce milieu libéral à Bruxelles, le comte d'Egmont et Horn sont en fait des emblèmes, des icônes de la libre pensée, de la lutte contre la répression, contre ce pouvoir de Philippe II de l'Espagne. Et donc, c'est Guémard qui reprend ça et qui, en même temps, indique dans quel camp il se trouve. Ce n'est pas par hasard non plus, parce qu'à cette époque-là, la politique internationale menace l'existence de la jeune Belgique, qui à cette époque n'a qu'encore 38 ans.
Eliane Vandenen, vous me faites penser à ce pourquoi Victor Hugo aimait venir à Ostende.
C'est pour Bruxelles.
C'est pour observer, dans la mer du Nord, se baigner les femmes en robe. Et il observait que les vagues faisaient flotter et bouger les robes, et ça l'intéressait beaucoup.
Mais oui, mais à l'époque de Victor Hugo, c'était encore des crinolines. Alors que la Zwanse est l'époque des grandes Great Zwanse Exhibitions, on n'a plus de crinolines, nous les femmes. On a une traîne, et donc une traîne, une Zwanse.
Et il dit quelque chose en sous-titre, en voyant la tronche du comte d'Egmont, on voit que c'est le bien public qu'on le lit. Alors le bien public, à l'époque, c'est un journal gantois qui est éminemment catholique, fondamentaliste catholique, ultramontain. Et donc là aussi, Guémard donne déjà un indice de quel côté lui, en tant que franc-maçon, se trouve. La même année, quelques semaines après, oui, deux semaines après, Guémard reprend cette exposition de Beaux-Arts de Rochefort chez lui, dans sa galerie, dans sa maison, rue du Persil à Bruxelles, et il rajoute un autre tableau, c'est le triptyque, sur le voûtement de la Seine. Et il a vraiment peint en septembre 1868, on le sait. Alors que dans tout son musée, et Guémard a pour son musée pastiché 120 tableaux, c'est énorme, hein? With a little help of his friends, probablement. Celui-là, il met aucun peintre de son époque en valeur, mais c'est peut-être qu'il se parodie lui-même. Parce que le thème central, vraiment, c'est le voûtement de la Seine. On a un tableau qui semble être un persiflage de Jean-Baptiste Vanhour, qui était un peintre très très connu à Bruxelles et qui avait reçu du bourgmestre de Bruxelles la commande de peindre le vieux Bruxelles avant qu'il soit rasé par ce voûtement de la Seine. En même temps, Louis Guémard avait reçu aussi une commande de faire cette commémoration du vieux Bruxelles en photo. Et c'est une photo de là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme un assemblage, Guémard, Vanhour et lui-même. L'instigateur de ce bourbier, c'était le bourgmestre Jules Anspach. Et il est là, devant les ogives gothiques de l'hôtel de ville de Bruxelles. Il n'est pas catholique, hein, Anspach, parce qu'on doit dire Anspach, parce que c'est un Allemand d'origine, dont la famille a émigré vers Genève, qui était une république indépendante, parce qu'ils étaient protestants. Hein, les protestants, le mouvement de la Seine, pouf, rien. Alors là, c'est peut-être Louis Guémard qui se parodie lui-même comme le fou du roi. Mais il y a plus. Vous voyez un baluchon avec un montant dessus. À cette époque, pour le voûtement de la Seine, la compagnie, qui était une compagnie anglaise qui allait aborder ce voûtement, the Belgian Public Works Company, a donné des pourboires aux journalistes pour promouvoir le modernisme, hein, le haussmannianisme de Bruxelles. Parce qu'Hansmann, dans les revues bruxelloises, était appelé Hansmann. Cette verve pour l'urbanisme et le modernisme, éraser tout, c'était très commun dans toute l'Europe. Et donc, cette compagnie a donné des pourboires à la presse, des pots de vin, en fait, pour qu'ils écrivent favorablement pour ses travaux. Donc, de là qu'il y a le chien qui est muselé, parce que la presse est muselée.
Monseigneur, vous êtes le capitaine Banco.
Oui, c'est bien, moi, mon ami, comment voulez-vous?
Je suis Skellington, le garde-chasse de Sa Majesté. Et je viens vous aider à chasser le renard.
Tenez. Vous chassez avec un bâton, vous?
Oui, monsieur. J'assomme ma victime d'un bon coup de bâton, et puis je lui coupe la tête avec mon couteau.
2 ans après, Guémard reprend son musée fantaisiste. Et qu'est-ce qu'il fait dans ce... Ouais, le piétonnier avant la lettre sur lequel on râle aussi à Bruxelles à cette époque, il construit une baraque en bois, un musée, comme un temple grec, la maison des muses. Et là, il met ses 120 pastiches. Il y a des pastiches de Courbet, de Diaz, de Isabey, de Verrouë, de Lez, enfin, tout ce qui est grand. Et aussi un Stevens qui peint à Paris toujours ce monde, ce demi-monde en fait. Ici, le tableau s'appelle « Dans l'atelier » ou « La pose du modèle ». Et Guémard le reprend, le simplifie comme il fait toujours, mais ce qu'il garde, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est la traîne de la cocotte. Et en même temps, qu'est-ce qui est important pour une cocotte? C'est de l'argent. Donc elle prend de l'argent. Et voilà, la cocotte jaune de Louis Guémard, qui nous vient et qui se trouve en salle au Palais de Beaux-Arts de Lille. Entre un Vuillard et un Bonnard, en face d'un Monet et un Manet. Je ne sais pas s'il y a peut-être plaque ici.
Et pour quelle raison êtes-vous à Namur au musée Félicien Rops?
Ben, il y a l'expo Zouanze, Guémard, et Ansor était un zouanzeur, pour employer le mot, mais plus exact pour Ansor, c'est il était un artiste humoristique et le burlesque est une partie, un moyen de voir son œuvre. Et c'est dans ce point de vue qu'on a fait une petite expo annexe avec les œuvres burlesques d'Ansor.
Patrick Florizone qui a sélectionné pour nous des œuvres de Ansor qui sont tout à fait dans cet esprit de Zouanze et qui va vous faire découvrir les Great Zouanze Exhibition qui auront lieu après la mort de Louis Guémard. Donc on est là dans les années 1885-87, 1914 et 1940.
Xavier Tricot.
On connaît James Ansor, peintre, graveur, mais Ansor, écrivain, est moins connu.
À Namur, au musée Félicien Rops, jusqu'au 17 février, La Zouanze burlesque et canular, de Louis Guémard à James Ansor.
Les tableaux et surtout les dessins de 1880-83, il y a toute une série de dessins qui représentent des types ostendais, et c'est le terme d'Ansor, de pêcheur, de poissarde, de ramoneur, etc. Et petit à petit, Ansor va changer de registre et commence à être fasciné d'abord par les salons bourgeois, et plus tard, son monde imaginaire va s'épanouir autour de 1886 à 1900, là où se trouve cette période plein de chefs-d'œuvre, l'une après les autres, qu'on peut d'ailleurs admirer à Bruxelles au musée. C'est à Bruxelles vraiment que la renommée d'Ansor s'est faite, certainement pas à Ostende. Et grâce à un cercle restreint d'intellectuels ou artistiques autour des Rousseau. Je parle donc d'Ernest Rousseau, le recteur de l'université. Et c'est dans ce milieu-là, justement, qu'Ansor a été reconnu, et petit à petit, à partir de 1900, sa réputation a traversé les frontières. Et c'est surtout en Allemagne, il faut dire, que la réputation s'est faite à l'étranger.
Je m'appelle Janine Vandenbroek.
Nous sommes à Ostende, sur la place d'Armes, dans un bâtiment que beaucoup connaissent, qui est le musée de la ville d'Ostende. Et en parallèle à l'exposition de Bruxelles, la rétrospective
James Ansor, au musée royal des beaux-arts de Bruxelles et à Ostende, en 1999.
Il y a des dessins qui se trouvent sur le billet de banque de 100 francs de chez nous et qui nous montrent comment les gens ici venaient au bain d'Ostende. Alors, ce que Ansor a voulu présenter, c'était d'abord les gens qui venaient autour pour voir comment ça se passait. Alors, vous avez tout ce monde qui se trouve dans l'eau. Parmi les gens qui viennent voir, il a fait quelques détails qui sont un peu spéciaux. Ces deux-ci s'embrassent. Monsieur le curé, qui est quand même pas très maigre, qui vient aussi voir comment ça se passe. Il y a aussi quelqu'un, un autre personnage, qui a un tas d'objets qu'on a accrochés ou bien à son pull ou à sa jupe ou son pantalon, je ne sais pas. Vous avez ici le voyeur qui regarde par le trou de la serrure pour voir comment on se déshabille dans les cabines. Les voyeurs avec les jumelles. Alors, tout ce qui se passe aussi dans l'eau et toutes les scènes qu'Ansor explique, ce qu'Ansor représente et ce qu'on voit, parce que vous avez ici deux chiens l'un sur l'autre. Vous avez aussi encore quand même des attitudes un peu bizarres. Donc, c'est ce qui se passe ici qu'il a présenté sur ce dessin les bains. Et ce dessin, il a été défendu dans une exposition et ce n'est que quand Léopold II est venu visiter l'expo et qu'il a rencontré James Ansor, il a demandé à James Ansor s'il est content, s'il était satisfait. Il a dit non parce qu'on m'a refusé de montrer ce dessin-là. Alors Léopold II a demandé de le voir et il avait dit effectivement c'est ce qui se passe ici à Ostende, ici quand les gens vont nager.
Donc en 1878, 79 et 80, il a fait la connaissance de Théo Hannon, un fêtard aussi qui a fait des théâtres fin de siècle, fin d'année. Et Théo Hannon l'a introduit dans la famille Rousseau, où sa sœur, Mariette Hannon, était mariée à M. Ernest Rousseau, le recteur de l'Université de Bruxelles. Une famille vraiment de gauche, peu anarchique, et Ansor venait d'une famille bourgeoise et mercantile d'Ostende. Là, il était avec la famille Rousseau souvent en voyage dans les bois de Soigny ou dans les dunes d'Ostende, et il envoyait le jour après des lettres illustrées burlesquement à la famille Rousseau. Et ça sont les premières trace de son humour.
La chute des anges rebelles. Mais comme lui, il a expliqué ça d'une toute autre façon. Tous les anges se sont transformés en monstres. Quand vous regardez tout ça, il y en a un ici qui a une scie en main. Ici, il y a un poisson qui transperce deux autres personnes. Et même parmi tous ces monstres, il a même indiqué un petit train. Donc on se demande pourquoi il a mis ce train-là.
Ben, il y a toujours les carnavals à Ostende, les masques, mais Ansor n'est que venu vraiment humoristique et dans son œuvre peint après qu'il y a eu les problèmes à la maison et la mort de son père en 1887. Dans son œuvre, on voit la rentrée des masques, de l'ironie, du sarcasme, du cynisme, donc beaucoup de choses humoristiques. Avant, c'était seulement dans les lettres intimes qu'il était vraiment humoristique.
Il n'a jamais été marié, mais il avait une amie, Augusta Bogart, mais ils n'ont jamais habité ensemble, ils n'ont pas eu d'enfants ni rien du tout, ils ne se sont pas mariés, mais il est aussi amoureux de la femme d'Ernest Rousseau. Et pour déclarer son amour, il a représenté sa part des insectes. Un hanneton qui représente James Ansor, et ici la libellule qui représente l'épouse Rousseau. Parce qu'elle, elle était biologiste. Et alors, comme ça, il pouvait déclarer son amour à la libellule.
après qu'il était sorti comme élève, il était lié au groupe Les Sorts, comme beaucoup d'étudiants de l'Académie. Et en 1983, il y a eu la coupure entre les progressistes et les artistes conservatifs. Et les progressistes ont fait le groupe Les 20. Et puis, il y a eu la friction entre Les Sorts et Les 20. Et la première expo Zouanze dans la mentalité de Guémard a été faite en 1885, Great Zouanze Exhibition. Et là, on a persiflé une œuvre d'un sort, le Christ marchant sur l'eau. Mais ça, ce n'était pas encore une œuvre humoristique, mais on persiflait surtout sa technique impressionniste. Et que plus tard, on a persiflé son œuvre comme connue avec les masques aussi.
James Ensor, lui, il ne lisait pas beaucoup. Son père aimait la littérature et lui, il était intéressé par quelques écrivains, surtout par Edgar Poe.
Alors il y avait donc Édouard Hanon, Théo Hanon et Mariette Hanon qui a épousé donc Ernest Rousseau. Alors Ernest Rousseau et sa femme recevaient régulièrement des artistes, des écrivains, des musiciens, des avocats, des médecins, professeurs chez eux. Et pour Ensor, c'était un milieu tout à fait différent de celui qu'il connaissait à Ostende. Ici à Ostende, à l'époque, donc, c'était assez pauvre, la vie intellectuelle. Et son père, qui était un homme assez fascinant, est mort en 1887. Et ce père d'Ensor a fait des études à l'étranger. Il était un grand lecteur, jouait de la musique, avait un physique incroyable. Et justement, c'est son père qui meurt quand il avait 27 ans. Et Ensor doit vivre avec sa mère, sa sœur, sa grand-mère, sa grand-tante, enfin, des femmes qui n'ont rien à voir avec son œuvre et avec sa création. Et ça le frustrait énormément. Et justement, à cette époque-là, quand il était à Ostende, il se réfugiait dans son atelier. Et là, l'atelier était pour lui un univers tout à fait alternatif, où il pouvait s'épanouir. Et à Bruxelles, il était soutenu certainement par les Rousseau et d'autres intellectuels. Par exemple, Le Monnier, Evrard l'ont soutenu dans leurs critiques. Et Ensor a connu Eugène de Mordre, le beau-fils de Félicien Rops. Et avec lui, il a fait quelques voyages à l'étranger, en Zélande. Un voyage qui a eu ses répercussions dans son œuvre, d'ailleurs.
Patrick Florizone.
Ici, on voit le tableau Les Vents, où Ensor emploie les moyens de la Renaissance avec des têtes qui font du vent. Et puis, le monsieur est un pétard et illustre ça avec le bruit que font les oies et les canards.
Xavier Tricot.
Il y a quelques lettres qui parlent de sa vie privée, quoique très très peu. Mais les plus intéressantes, me semble-t-il, sont celles adressées à Maurice Desambiaux et à Louis Delattre, deux écrivains actuellement peu connus ici en Belgique, mais qui ont écrit pour un numéro spécial de La Plume à Paris à l'occasion de son exposition au Salon des Cents. Alors je parle de 1898-99. Et le côté amusant de cette histoire, c'est que justement Louis Delattre avait en tête d'écrire un petit conte, L'enfance de James Ensor. Et le comble de l'histoire, c'est qu'en fait, cette histoire que Louis Delattre a inventée s'avère être pratiquement la réalité. Il y a simplement les grands-parents à changer en parents et on avait l'histoire que Louis Delattre avait inventée. Et cette lettre-là, par exemple, ou les deux lettres adressées à Delattre nous apprennent l'influence de son univers quotidien, donc celui de la boutique de ses grands-parents, rue des Capucins à Ostende. Et là, Ensor avait l'opportunité de voir toutes ces chinoiseries, ces coquillages, ces masques, les chats et le singe de sa grand-mère. Et cette grand-mère, justement, qui, à 60 ans, sortait encore pendant le carnaval. Elle se déguisait, elle portait un masque, et devant son petit lit, à 5 ans, la grand-mère apparaît devant le petit James, qui a eu une frousse bleue, sans doute, et ça l'a marqué encore à part après. Et quand on voit le tableau, l'étonnement du masque bouse, un tableau du musée d'Anvers, et en comparant ce tableau avec cette lettre, il y a certainement des relations et des parallèles à faire.
Mais Eliane Van den Heide, à vous écouter, on pense à la figure d'un Till Eulenspiegel.
Ah ben oui, mais c'est très important, Till Eulenspiegel. Il renaît au 19e, parce que c'est une figure aussi de contestation contre ces Espagnols, contre ce régime autoritaire. Parce que nous, la jeune Belgique, il ne faut pas l'oublier qu'on a une constitution très très libérale où le roi n'a rien à dire. C'est le Parlement qui dit tout et qui dicte tout, les libertés. Et donc Till Eulenspiegel nous revient aussi par exemple par un député qui s'appelle Louis de Frey, qu'on connaît par la rue à Uccle.
L'avenue de Frey.
Oui, l'avenue de Frey, qui a écrit...
Où l'ambassade de Russie se trouve.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Mais de Frey est un député libéral qui écrit sous un pseudonyme, ce qui était aussi fréquent au XIXe siècle, c'est Boniface. Parce qu'il dit à ses collègues, un collègue député catholique, c'est interdit aux députés de rire au Parlement. Alors lui prend ce Till Eulenspiegel, Till l'espiègle, comme un modèle de rôle, comme une icône, comme une emblème. C'est la libre pensée, c'est le libre parler, c'est l'espièglerie, c'est on fait des farces et en même temps, on dit ce qu'on a à dire. Il y a une très très belle histoire. Qu'est-ce que c'est l'Azance?
Au premier étage du musée Rops, Véronique Carpio, comment se termine l'exposition?
Eh bien donc, après l'évocation du côté burlesque et humoristique de James Sansor, on évoque les différentes Great Zance Exhibitions qui ont eu lieu à Bruxelles après la mort de Guémard et après la vente des tableaux de Guémard en 1879 à Paris. Et donc on voit vraiment que déjà donc avec James Sansor, il y avait ce conflit entre l'essor, le groupe de l'essor et le groupe des 20. Ben, on voit en fait que c'est vraiment le même esprit qui revient. Donc on est plus dans de la moquerie autour des grands ténors de l'art contemporain de l'époque. On a des imitations, et notamment Léon Frédéric, qui vient d'avoir d'ailleurs sa rétrospective au musée Courbet à Ornans, qui est vraiment un représentant de la Zouance et qui va recycler aussi des tableaux, qui va représenter plusieurs fois, aussi bien en 87 qu'en 1914. Et il va faire des pastiches d'œuvres un peu ésotériques. On croit y reconnaître Jean Delville ou Fernand Knopf. Donc ce sont vraiment les artistes qui vont se moquer de leur père d'une manière assez directe et assez décomplexée. Donc par exemple, en 1914, il y avait une section qui était consacrée à la peinture albanaise. Donc on voit notamment un représentant sur un chameau. Donc il y a vraiment tout cet humour et déjà la présence évidemment d'Alfred Jarry, du roi Ubu, qui est là pour les vernissages, etc.
Anne-Laure, pourquoi intéressant?
Alors ça c'est intéressant parce que, bon, d'abord le croquis est extrêmement léché, travaillé en couleur, Alors ça s'appelle « Le dernier pape, finis latinorum ». Alors ça, c'est un thème qui est très fréquent à la décadence, l'idée de... intéressant par rapport à l'idée de « dernier pape », par rapport à la libre pensée de Félicien Rops, d'abord en première instance. Donc on voit sur la gravure une sorte de masque de morbide surmonté de la coiffe papale en train de verser des larmes qui peuvent être des larmes de sang. C'est quelque chose de la fois dérisoire et de puissant que cette gravure qui ne va pas, là encore, sans un certain anticléricalisme marqué, hein, avec ce crâne qui pleure. Et l'anticléricalisme est encore plus marqué par la gravure, au-delà de la gravure, par le croquis marginal qui représente une scène sexuelle, les jambes, on voit une femme aux jambes largement écartées et un homme dont le visage plonge dans son sexe, par-dessus un fauteuil. Donc cette femme qui semble éclatée, presque éclatée comme une grenade ou comme un fruit mûr par la violence du geste masculin, le tout étant à la limite de... Enfin, l'homme est encore en costume de ville, enfin ça a quelque chose d'infiniment prosaïque. Ça contraste avec le climat presque allégorique de la représentation du dernier pape, la tête dans un ciboire en train de pleurer, la tête de mort en train de pleurer. Enfin, on a une sorte de grincement qui joue à la fois de la gravure elle-même et du croquis marginal.
Donc tout cet esprit amusant, cocasse, et c'est difficile aussi de ne pas avoir un lien avec des périodes de grande tension politique, évidemment, puisque ces deux expositions ont lieu la veille des conflits mondiaux. Guémard réalise son musée en 1870 lorsque c'est aussi la guerre en France, et lui d'ailleurs dit que tous les soldats qui se présentent, qu'ils soient en uniforme français ou prussien, peuvent entrer gratuitement dans le musée. Donc il y a cette idée de peut-être pacifier aussi le contexte politique à travers le contexte artistique, de montrer voilà, qu'il y a une certaine manière de voir la réalité, et le fait que justement ces grandes expositions aient lieu la veille de ces conflits mondiaux permet peut-être, d'une certaine manière, en tout cas, de relâcher une certaine pression sociale et politique.
Pendant la Première Guerre, il y a deux Bruxellois qui flânent sur le boulevard. Et du côté opposé, il y a un officier allemand qui parade. Et au moment où ils se croisent, le premier Bruxellois donne une Tuffelink, donc une taloche, à l'allemand. Et puis l'autre, Bruxellois, donne aussi une baffe. Les ketchs sont embarqués à la commandantour. Et puis là, il demande au premier, mais pourquoi vous avez fait? Pourquoi vous avez giflé cet officier allemand? Alors le premier, il commence à s'énerver, qu'il en a marre de tous ces boches qui sont là, et que ça lui traîne les pieds, et patati, et patata, et ça suffit, et maintenant c'est assez. Et puis on demande au second bruxellaire, mais pourquoi vous avez donné une gifle? « Oh, dit-il, je croyais qu'on pouvait déjà. » Ça, c'est la Zwanse.
Zwanse égale résistance.
Zwanse égale résistance. La Zwanse, c'est un plat de résistance.
Qui se mange froid.
Oh, parfois c'est chaud.
À Namur, au musée Félicien Rops, jusqu'au 17 février... La Zwanse burlesque et canular, de Louis Guémard à James Ensor, avec Eliane Van den Heide.
La Zwanse, quand on regarde ces bonhommes, ces Zwanseurs, ils sont toujours très bien habillés, attirés à quatre épingles, costume, cravate, le petit gilet, et puis, comment ça se dit, la chaîne de l'horloge. Ils ne sont pas uniquement des artistes. Il y a des receveurs d'impôts à Bruxelles, des archivaires, des bibliothécaires. C'est vraiment la bonne bourgeoisie. Mais en même temps, ils ont besoin de ça. Et moi, je crois que nous, les petits Belges, on est les premiers dadaïstes. Parce que qu'est-ce que Guémard, par exemple, fait pour son musée fantaisiste ? Il attache des objets trouvés à ses tableaux. 1870, pour son musée fantaisiste, plein centre de Bruxelles, place de Brouckère, parking 58. Il copie, mais grandeur nature, le marché aux chevaux de Rosa Bonheur. Ça fait 5 mètres de long, 2,5 mètres de hauteur. Il le copie, grandeur nature, avec un cadre tarte à la crème. Et en haut du tableau, il accroche une tête de cheval empaillée où la paille sort encore de la bouche du cheval. Ça sont des objets trouvés que par après Marcel Duchamp fait. Louis Guémard attache un aviron, mais un vrai aviron en bois, à une marine. Il cloue des clous dans des semelles des zouaves, où il les colle des bonnets tricotés rouges. Donc il fait un tas de choses que par après, les dadaïstes vont faire. En 1870, Guémard peint le premier carré blanc. Ce n'est pas Casimir Malevitch en 1818, ce n'est pas Alphonse Allais avec les incohérents qui ne vient qu'une dizaine d'années après. C'est Louis Guémard qui peint un tableau blanc. Peinture de l'avenir. Et il émet, ça c'est très visionnaire, ah non, c'est même pas visionnaire, c'est un commentaire, commande du gouvernement. 1870, combien c'est actuel?
Avec Eliane Van den Heyde, Véronique Carpio et Patrick Florizon. Ainsi que les voix de Anne Larue, Xavier Tricot, Janine Vandenbroek, enregistrées à l'occasion de la rétrospective James Sansor au Musée Royal des Beaux-Arts de Bruxelles et à Ostende en 1999. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Zouance Burlesque et Canular par Thierry Genicot.